Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est difficile de ne pas aller bien quand il fait beau comme ça, hein? Puis quand le printemps est à nos portes, là, ça semble que ça redonne la joie, ça donne, je sais pas, ça égaie nos journées, fait beau et tout. Donc, pour moi, c'est le cas, en tout cas. Et je rends gloire aussi à Dieu parce que hier, on a eu une belle journée. Quelques-uns d'entre nous, on a été à Trois-Rivières pour assister à des conférences sur la défense de la foi. Puis, de 9h le matin à 8h30 le soir, là, on a été bourrés d'informations super intéressantes concernant comment répondre à plusieurs questions. Jésus ou Mahomet, qui détient le salut, comment est-ce que l'univers a commencé, des choses comme ça. Quel rapport entre comment définir la vérité aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui définissent la vérité comme d'une façon postmoderne, ma vérité, ta vérité, etc. Puis ça a été vraiment un temps fort pour nous. Puis je veux louer Dieu pour ça. Ça a été une belle journée. Good. Donc, il y a deux semaines, comme Michel a dit tantôt, on a reçu... moi, j'aime ça prendre le micro pour pouvoir bouger. Good. Donc, il y a deux semaines, on a reçu le pasteur Michael Gagnon qui nous a apporté un très bon enseignement sur la louange, entre autres. C'était vraiment le cœur, je crois, de son enseignement. Et puis, c'était dans Éphésiens 5, 18 à 21, merci, qui disait essentiellement « Soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, rendez toujours grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, c'est vraiment, le thème de son enseignement, c'était la louange. Et comme Michel l'a dit ce matin aussi, les deux prochaines semaines, le thème des enseignements vont être la puissance de la louange. Et je me suis dit, je vais joindre ma voix pour nourrir la réflexion sur qu'est-ce que la louange, puis quelle place ça a dans le plan de Dieu, dans notre spiritualité en tant que chrétien et chrétienne. Et puis, donc le thème de ce matin va porter sur la louange, l'adoration. Et le passage qu'on va lire ensemble, c'est dans Romains 1. Je ne sais pas, ma petite manette ne semble pas marcher. Thank you. Bon, super. Donc, le passage qu'on va lire, ça va dans Romains 1, versets 18 à 25. Je vais avoir certaines diapositives qui contiennent beaucoup de textes, donc je vous inviterai, si vous avez à cœur, de simplement le lire à haute voix pour nous. Donc, c'est pas mauvais d'avoir votre Bible ouverte aussi au chapitre 1, parce que je vais faire des fois des liens qui ne sont pas nécessairement au tableau. Donc, Romains 1, versets 18 à 25. Est-ce que quelqu'un voudrait lire cette première diapo? Merci. Donc, vous pouvez déjà voir les trois points que je vais apporter. Connaître, glorifier, devenir. Je crois vraiment, je suis persuadé que la louange, un esprit de louange, c'est basé sur le fait d'abord que l'on connaît Dieu. Ensuite, ben c'est ça, ça nous pousse à quoi? À le glorifier. Et ça, ça a toute une importance dans notre devenir, dans qui nous devenons en tant que personne. Ça, c'est vraiment l'idée essentielle, dans le fond. Si vous ressortez d'ici, puis vous vous demandez, quelqu'un vous demande, qu'est-ce que c'est prêché ce matin? Vous dites, Romains 1, 21, connaître, glorifier, devenir. Amen. Fait que maintenant, on va développer ça un peu plus. Puis, en fait, il y a quelques versets qui suivent ça que je veux lire aussi, qui est dans Romains, dans le fond, les versets 23 et 25. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Donc, une des premières choses qu'on voit dans ce passage-là, c'est que il y a beaucoup la notion... Ok, je me dépasse. Je me précède. Donc, la première chose que je veux voir avec vous, c'est connaître Dieu. Quelle place a la connaissance de Dieu dans la louange? Et je suis persuadé que c'est logique. On ne peut pas louer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous êtes d'accord avec ça? On ne peut pas louer un inconnu. On n'a aucune raison de louer. Il faut d'abord le connaître personnellement pour pouvoir le louer. Même les hommes louent d'autres hommes lorsqu'il se passe des belles choses. Que quelqu'un ait sauvé la vie d'un autre, on va le louer, on va lui rendre hommage, on va souligner à quel point c'est bon, c'est une bonne chose. Mais il faut être au courant de quelque chose concernant cette personne-là pour pouvoir lui rendre hommage, pour pouvoir la louer. Donc, de la même manière, avec Dieu, il faut connaître un petit peu, un minimum de choses sur Dieu pour pouvoir le louer. Et ce que j'aime du texte qu'on vient de lire, c'est que Dieu, dans son plan parfait, affirme là qu'il a donné un minimum de connaissances à tous les êtres humains. Par l'entremise de la création, donc les gens, lorsqu'ils regardent la création, un beau coucher de soleil ou un beau paysage ou un bébé qui naît, quelque chose de vraiment beau dans la création, ils sont comme tout de suite, ils ont « wow, ça vient d'un créateur, ça vient de Dieu ». Et ce « wow » là que des fois on dit en assemblée nous-mêmes, c'est ça la louange. C'est comme on voit quelque chose, on apprend quelque chose de merveilleux, qui pointe vers Dieu, et puis ça, c'est vraiment la base de notre louange. On ne peut louer un Dieu qu'on ne connaît pas. Et ça implique aussi le deuxième point que j'apporte, c'est plus on connaît Dieu, plus on sera porté à le louer. Comme je dis hier, j'étais à une conférence avec quelques personnes d'ici, et puis un des ateliers où j'ai été, c'était Jésus ou Mahomet, en qui se trouve le salut. Et puis, c'était vraiment intéressant, c'était un musulman qui habitait au Burkina Faso, qui s'est converti à Jésus-Christ, et puis c'était très, très intéressant. Et à un moment donné, il a listé les éléments qu'il faut que les musulmans accomplissent pour être sauvés. Il disait, il faut par exemple avoir la foi en Allah. Allah est le seul Dieu et Mahomet est son prophète. Ça, c'est l'une des choses qu'il faut faire pour être sauvé. Il faut faire des œuvres. Il faut aussi espérer que la miséricorde d'Allah, que Allah va leur faire grâce, qui va permettre qu'ils entrent au paradis. Il faut aussi compter sur l'intercession de Mahomet au dernier jour. Et enfin, un autre facteur qui peut favoriser le fait que tu sois sauvé dans la perspective musulmane, c'est de faire la guerre sainte. Dans les formes extrémistes, ça prend la forme du terrorisme. Mais c'était ces cinq points. Mais il dit, même si un musulman accomplit tous ces cinq points-là, ça ne garantira jamais son salut. Ça veut dire que Allah, étant souverain, étant le big boss de l'univers, il peut dire, en bout de ligne, au jugement dernier, « Ben, ça ne me tente pas de te voir au ciel, donc moi, je t'envoie en enfer. » Donc, les musulmans n'ont aucune garantie de leur salut. Et quand moi, j'ai entendu ça, ma réponse initiale là, dans mon cœur, ça a été « Merci, Seigneur, pour le salut que tu nous as acquis à la croix. Merci, Seigneur, de ce que j'ai la paix maintenant, aujourd'hui. Je sais que moi, si je meurs, je peux aller, je vais tout de suite dans ta présence, puis j'ai rien à faire de plus que de croire en toi, que de te faire confiance, de voir, de comparer le vrai Dieu à un autre Dieu. Ça m'a fait ressortir la beauté du vrai Dieu que je loue, qui est l'objet de ma foi. Et cette connaissance me portait à l'adorer encore plus, de voir à quel point, hey, merci Seigneur, j'ai l'assurance d'être sauvé aujourd'hui. Ça dépend pas de moi, ça dépend de ce que tu as fait à la croix. Wow, donc ça peut être de connaître plus intellectuellement Dieu, mais d'abord et avant tout, c'est connaître Dieu expérientiellement et personnellement, qui fait en sorte qu'on va être poussé à le louer de plus en plus, qui va alimenter notre adoration. Une façon concrète que ça peut prendre, c'est de vous faire un calepin de prière, puis de laisser une colonne à côté qui dit la date d'accomplissement. Seigneur, je m'attends à ça. Je sais que ça, c'est ta volonté, ça. Puis, Seigneur, je vais te prier continuellement, puis je m'attends à ce que tu vois, à ce que je vois ta puissance s'accomplir dans ce domaine-là. Et puis, lorsque ça se passe, vous allez écrire la date, et puis plus tard, vous pouvez y revenir et voir l'action de Dieu dans votre vie. Moi, je le fais, mais pas comme ça exactement. J'ai comme des dossiers dans mon ordinateur où est-ce que des fois, ça prend des formes de poèmes, des fois, ça prend la forme de... J'écris une chose que j'ai appris dans ma vie, une leçon de vie. Et puis, je l'écris là, puis je marque ce que j'ai appris au travers de mon expérience avec Dieu. Et des fois, des années plus tard, je vais relire ça. Et je relis ça et je dis, waouh, Seigneur, t'as agi là, dans ce domaine-là. J'avais complètement oublié. Mais à cause je l'ai écrit, j'ai été revoir, puis ça m'a poussé à me remémorer la puissance de Dieu dans ma vie personnelle. Et puis, je leur loue pour des choses passé, et puis ça augmente ma foi dans le moment présent. Donc, ça me rappelle ce Dieu-là qui est agissant. Vous ne pouvez pas louer Dieu, vous ne pouvez pas louer un Dieu que vous ne connaissez pas. Minimalement, on le connaît par la création. J'ai, sur Facebook, à un moment donné, j'ai vu ceci, j'ai caché les noms et tout, là. C'est une amie du secondaire, ça fait 10 ans que je n'avais pas revu. Hier, Lily, qui est sa petite fille de peut-être, je crois, elle a 5 ans, sa petite fille. Hier, Lily m'a dit, « Maman, c'est qui a inventé la lune? » C'est pas cute. Elle est différente, elle a une petite fille de 5 ans qui, en regardant les étoiles, demande à sa maman, « C'est qui a inventé la lune? » Remarquez, la question, c'est pas, « C'est quoi qui a produit la lune? » Ou comment la lune s'est faite? C'est qui a inventé la lune? Et c'est vraiment le passage dit qu'on a lu tantôt que Dieu s'est fait connaître à nous, comment? Par l'entremise de la création de ses ouvrages. La petite fille de 5 ans, elle est une illustration de ça ici. Et là, j'étais vraiment curieux de savoir la suite. Et là, j'ai lu ceci. Sa sœur lui répond. Tu lui as répondu Dieu, j'espère. Là, je suis comme, yes, c'est ça la bonne réponse. Et là, l'autre, elle répond, en fait, je savais pas quoi dire. J'ai dit que la lune était là avant les humains, personne ne sait. C'est le genre de réponse poche que les enfants aiment pas. Mais si j'avais dit Dieu, s'en serait suivi toutes sortes d'autres questions auxquelles j'aurais pas eu plus de réponses à lui donner. C'est intéressant. Donc, elle souhaiterait, elle pense peut-être que Dieu c'est la bonne réponse, mais est pas prête à répondre aux autres questions que ça va engendrer, comme qui a créé Dieu, d'où vient Dieu, ou ces genres de questions-là, c'est qui Dieu. Elle connaît pas, mais c'est intéressant. Elle semble pas, elle est pas catégoriquement contre, mais donc elle est un peu, elle sait pas comment gérer ça. Et puis, voici la suite. Ça commence à devenir moins beau. Ha, ha, ha. Non, c'était du sarcasme. J'espère que tu lui aurais pas sorti une excuse comme ça. Lol. C'est poche comme réponse pour un enfant. Mais ça reste vrai quand même. Bon. OK. Elle se contredit un petit peu, là. Elle dit, c'est la bonne réponse en bout de ligne, mais c'est une réponse qui est plate. Je trouve pas. Là, enfin, encore la maman, elle répond, « Ouais, en fait, personne n'a la réponse. » Moi, en voyant ça, mon cœur là a tellement été interpellé. Là, je me suis dit, « Je peux pas ne pas répondre à ça. » C'est comme, c'est une petite fille de 5 ans qui a comme son premier mouvement spirituel qui l'attire vers Dieu. Et la maman semble pas être... totalement contre le fait que sa fille croit en Dieu ou elle-même qu'elle croit en Dieu. Mais c'est juste qu'elle ne sait pas comment gérer ça. Puis, je lui ai écrit un courriel. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas parlé. En fait, même au secondaire, on n'est pas vraiment proches. On se connaît, on est pas mal dans le même cercle d'amis, mais on n'est pas proches. Fait que j'ose écrire un courriel, disant au début, bon, salut Janie, oups. En tout cas, salut, excusez-moi. De toute façon, vous ne la connaissez pas, elle est d'un endroit très éloigné dans le nord du Québec. Très, très loin. Mais, ouais. Donc, je lui écris, là, je dis, oh, je sais qu'on ne sait pas, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, puis on ne se connaissait pas beaucoup au secondaire, etc. Mais là, bon, fait que je fais une petite intro, tu sais, qui est un petit peu préparant, dans le fond, le cœur de mon message. Puis là, à un moment donné, je lui dis, je vais vous lire ce que j'ai dit. Je lui dis, en voyant ce que tu as écrit concernant la question de ta petite fille, Lily, je me suis senti interpellé d'un côté, et de l'autre côté, tu as l'air d'une fille qui aime bien réfléchir. Libre à toi de faire ce que bon te semble de ce petit message. J'avais juste à cœur de te partager une petite pensée sur cette question, toute sincère et innocente de ta petite fille. Question qui est en même temps très profonde. Donc là, je lui dis que je veux juste partager un verset de la Bible, qui est en fond le verset qu'on a lu tantôt, qui dit que Dieu s'est clairement fait connaître à nous, et puis qu'au travers de la création, il s'est fait connaître à nous. Et Là, j'ai fini en disant, c'est pas que personne n'a la réponse. La Bible en offre une, puis moi, je trouve qu'elle fait intuitivement du sens. T'sais? Puis, je dis, pour Lily aussi, elle semble faire du sens. Elle a demandé la question, c'est qui a créé la Lune? Puis là, j'ai juste dit que, dans le fond, la réponse, elle est toute simple, c'est Dieu. T'sais? Puis que c'est une réponse qui est très importante quand même. Finalement, elle m'a répondu, puis elle m'a dit qu'elle appréciait ma réponse, que oui, elle était surprise que je lui écrive après tant de, après 10 ans de, on n'était pas vraiment, on se connaissait plus ou moins. Et elle a dit ceci, j'apprécie que tu veux partager ça avec les autres, tes convictions religieuses, elle parlait de ça. Je vais me pencher sur la question avec elle et essayer d'éveiller sa petite spiritualité. Fait, gloire à Dieu, ça a été bien reçu, et puis elle va juste dans le fond, naturellement, si c'est des moyens, c'est des dispositifs naturels que Dieu a mis pour tout le monde. Et puis ça nous parle de Dieu, puis ça, c'est un sentiment de d'émerveillement qui nous pousse à la louange, à louer Dieu. Et si on suit ça, je suis persuadé, Saint-Esprit va utiliser ça pour nous éventuellement nous faire connaître Jésus-Christ, puis plus qu'on se laisse guider par ces éléments-là, et que notre cœur se remplit de louange face à la beauté de Dieu, on va de plus en plus le connaître. Le verset 21, il dit que, je vais le relire, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Donc, il semble que dans ce passage-là, une des suites naturelles du fait de connaître Dieu par l'entremise de la création, c'est de le glorifier. Parce que on reprend ici la personne qui ne l'a pas fait. C'est pas normal que tu n'aies pas fait ça. C'est comme si on s'attend à ce que on est face à Dieu, notre mouvement naturel, c'est de dire waouh, puis d'avoir une certaine reconnaissance, un certain émerveillement, de célébrer sa beauté. Un peu plus loin, ça dit ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Une des choses que j'aime faire quand que je lis ma Bible, c'est de réfléchir à qu'est-ce que veut dire les termes que je suis en train de lire. Qu'est-ce que veut dire les termes qu'on utilise dans l'Église qui ne sont pas utilisés en dehors de l'Église? Glorifier, péché, la foi, le salut. Vous dites ça en dehors, là, les gens ne comprennent pas. Vous-même, comprenez-vous? Moi, des fois, je me dis, hey, c'est un mot, on l'utilise, on dirait, je le sais intuitivement, c'est quoi, mais si je tiendrais pour l'expliquer à quelqu'un, là, je suis pas sûr que ça serait si évident que ça. Fait que je prends le temps de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ce mot-là? Ou cette notion-là? Et puis, je vais pas voir le dictionnaire, je vais pas voir un auteur qui écrit là-dessus. Je réfléchis. Pour moi, louer Dieu, c'est... Et puis, j'ai pris le temps de... Ça, c'est ma définition. Expression joyeuse d'une reconnaissance et d'une admiration poussée de l'intérieur vers l'extérieur. Pour moi, ça veut dire, dans le fond, que louer Dieu, là, ça part d'abord de l'intérieur, puis c'est comme, c'est juste exprimer de façon joyeusement quelque chose que je trouve beau, que je trouve louable, et puis quelque chose que j'admire, qui m'inspire. Ça, c'est pour moi, c'est la louange. Et puis, c'est vraiment important, je pense, de faire cette réflexion. C'est comme une genre de méditation, en fond, sur un mot, sur un concept. Et puis, c'est vraiment utile quand on parle avec les gens. Hier même, je me suis fait demander... Je lui ai dit, oh, Dieu est amour. Il me dit, ouais, c'est quoi ça veut dire amour? C'est quoi ça veut dire Dieu est amour? Parce que j'avais déjà réfléchi à la question, j'ai dit, pour moi, Dieu est amour, ça veut dire Dieu se préoccupe et s'occupe du bien des autres. Puis je sais que ça, c'est bibliquement, je pourrais vous donner des exemples dans la parole où est-ce que ça définit l'amour comme ça. Fait que c'est bon que là, les gens, OK, après ça devient un peu plus concret. Fait que on peut nous-mêmes mieux comprendre les textes et l'exprimer aux autres. Mon point ici, c'est que même les non-chrétiens ont le désir et le besoin de louer Dieu. Lorsque, des fois, on peut le voir sur Facebook encore, mais des fois, là, une nouvelle job, un nouvel emploi, merci la vie. C'est comme, ça ressemble à de la louange. C'est ça. La vie, mais c'est un peu impersonnel, mais on a le besoin d'exprimer notre vie. Quand c'est vraiment intense, quand on enfin là on a On avait des problèmes financiers, puis là, comme boum, il y a comme quelque chose qui arrive, le gouvernement nous tourne de l'impôt, des retours d'impôt, ou peu importe, il y a quelque chose qui tombe, là, ah, merci, c'est comme c'est un soulagement, là. C'est comme faut le dire, alléluia, tu sais, c'est comme, il y a des mots qu'on utilise, que même les non-chrétiens utilisent, que c'est comme, c'est faut qu'on exprime ça, c'est plus fort que nous, et ça, c'est la louange. Moi, je me souviens que la première journée après que j'ai rencontré Dieu, une des choses qui caractérisait le plus le nouveau Sonny, je pourrais dire, c'est le fait que j'étais rempli de reconnaissance. Je louais Dieu pour le respire que j'ai, la vie que j'ai, pour ma famille. Je me souviens, mon premier déjeuner, là, le lendemain que j'ai rencontré Dieu, là, j'étais comme « Wow! » Puis chaque bouchée, j'étais comme puis j'étais reconnaissant pour tout. Puis c'était je venais de passer dans une étape où est-ce que je connaissais Dieu, le Dieu de la création, il y a un créateur derrière ça, je sais pas. T'sais. J'avais une certaine crainte, peut-être une certaine reconnaissance pour les choses générales, mais là je venais de passer à une étape significativement plus avancée dans ma connaissance de ce Dieu-là. Et là c'était comme toute ma louange et ma reconnaissance avait augmenté là comme à l'extrême. Et puis, je pense que c'est juste naturel. Plus on connaît Dieu, plus on va vouloir le glorifier. Puis, ça va juste se faire naturellement. En même temps, par exemple, des fois, même les parents, parce que mes parents, ils ont fait ça, des fois, il faut dire à l'enfant, oublie pas de dire merci, oublie pas. C'est quelque chose, en même temps, qui s'apprend. Il y a comme une part de naturel d'un côté, puis une part d'apprentissage là-dedans, mais combiné ensemble, là, ça peut nous mener à des endroits vraiment merveilleux. Glorifier Dieu est au moins à deux égards ce qui est le plus contraire à ce qui caractérise Satan. Et là, j'ai marqué CB, non, CS, pas pour CS Lewis, non, non, pour combat spirituel. Ça, c'est ce que je vais vous dire là, c'est bon pour le combat spirituel. Quand ça va mal dans votre vie, quand vous sentez que l'ennemi vous attaque, la louange, c'est puissant parce que c'est contraire, c'est vraiment l'opposé, c'est l'antithèse de deux notions importantes qui caractérisent vraiment Satan. La première, c'est le contraire de l'orgueil. Dans notre passage, ça dit à un moment donné que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, ils sont comme, ah, moi je suis quelqu'un, moi je suis connaissant, j'ai l'argent, moi je suis fort, il y a certaines, à se louer, à force de se louer soi-même, les personnes dont parle Romains 1 se sont enflées d'orgueil, et puis ça, c'est une des premières caractéristiques de Satan. On connaît pas beaucoup de choses sur comment Satan est devenu Satan. On pense que, les théologiens pensent que c'est dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28 qu'on a une description de comment, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde spirituel concernant un ange puissant qui a chuté parce qu'il s'est élevé, il a voulu s'élever par-dessus Dieu, il s'est enflé d'orgueil. Et puis, c'est dans une prophétie appliquée à des rois. Fait qu'il y a comme un parallèle là, et les théologiens pensent que ça pourrait nous expliquer l'origine de Satan. Et la cause de sa chute, c'est qu'il s'est enflé d'orgueil. Il a voulu être supérieur à Dieu, il a voulu mettre son aile par-dessus celle de Dieu. L'orgueil, c'est vraiment quelque chose qui caractérise Satan. 1 Timothée 3:6 dit que pour un ancien, si une personne veut être ancien, on ne peut pas mettre un nouveau croyant. On ne peut pas mettre un nouveau chrétien. Pourquoi? De peur qu'il ne soit enflé d'orgueil et qu'il ne tombe sous le même jugement que Satan. Donc, l'orgueil et Satan, ça semble faire un. Un autre élément qui est intéressant, c'est que le mot diabolon, dans le grec, des fois est utilisé pour parler de personnes médisantes ou de calomniateurs. Donc, ça dit dans 1 Timothée 3:11 que les femmes ne doivent pas être médisantes, les femmes ne doivent pas être diabolones. Dans le fond, le diabolon, ça veut dire accuser, ça veut dire entretenir un climat négatif en disant des choses peut-être même fondé des fois, mais qui fait juste pointer vers le mal que les gens ont fait, ou ça dévalorise, c'est comme c'est vraiment c'est rabaisser l'autre, c'est vraiment prendre plaisir à parler en mal de l'autre. Et puis ça caractérise Satan. Il est orgueilleux, ça veut dire qu'il s'élève lui, il rabaisse les autres. Et ça, c'est complètement contraire au modèle de Jésus. Satan s'élève pour abaisser les autres. Jésus élevait le Père et les autres, les marginaux surtout, tout en gardant une attitude d'humilité et de serviteur. Il s'abaissait lui-même pour élever Dieu, glorifier Dieu, et aussi élever les autres en les servant, en leur redonnant de l'estime, de la valeur, etc. Donc, quand on loue Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est que on reconnaît qu'il y a une puissance supérieure à nous, que Dieu est beau, Dieu est grand, Dieu est fort, et puis c'est comme si on se soumet un peu à lui. Et puis c'est vraiment des attitudes contraires à Satan. Et puis je pense que c'est vraiment bon dans le combat spirituel de louer, d'adorer Dieu de cette façon-là. Un peu plus loin dans Romains, ça dit n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Il semble faire écho là ici au début de Romains. D'accord. Donc, mon dernier point, c'est de tout ça, ça va produire des personnes qui deviennent semblables à Dieu. Peut-être que dans votre traduction, vous avez quelque chose de différent au verset 21. C'est quoi ça dit? Ils se sont égarés dans de vains raisonnements. Est-ce que ça dit ça dans votre traduction? Ils se sont égarés dans de vains raisonnements? Dans leur pensée. Il y a personne qui a, ils sont devenus vains, hein? Est-ce quelqu'un qui a ça? Moi, je l'ai en note de bas de page, puis dans le grec, c'est un peu l'idée que ça donne. C'est qu'ils sont devenus vains dans leur raisonnement. Puis, c'est repris un peu plus loin, ils sont devenus fous. Donc, le fait de connaître Dieu et de rejeter cette connaissance-là fait en sorte que, on ne veut pas le glorifier, puis probablement on va avoir tendance non plus à ne pas vouloir louer les autres, mais peut-être à développer un égocentrisme, une vue assez élevée de soi. Puis tout ça, ça fait en quoi? Ça fait en sorte qu'on devient vanité, on devient aussi fou. Puis c'est ultimement, si on pose ça à bout, imaginez que chaque personne serait comme Satan, puis qu'on voudrait tous être adorés nous-mêmes. Ça ferait en sorte qu'on finirait, j'ai une vidéo là sur YouTube, on finirait seul dans un sanctuaire à jouer du piano et puis à se chanter des chants de louange. Puis c'est vraiment drôle sur YouTube, il y a ça, il y a quelqu'un qui chante la louange, tu sais, comme mais il met son nom à la place de Dieu, il dit « Oh, combien je suis grand! » Mais il est tout seul là, avec son piano dans le sanctuaire, c'est vraiment comique. J'ai pas eu le temps de le trouver ce matin, mais j'avais pensé à ça, puis je me suis dit « ça aurait été vraiment drôle ». Mais c'est ça, ça provoque dans le fond l'émiettement. Puis encore une fois, ailleurs dans Romains, Paul dit que le plan de Dieu est de nous transformer à l'image de Jésus. C'est ça son plan. Donc tout ça, ça provoque, ça a des conséquences assez grandes. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un gars qui s'appelle Norman Williams, qui est un Californien. Ça fait quand même, je dirais, 20 ans à peu près que cette histoire-là s'est passée. Et puis, il était invité par son collègue de travail à aller aux îles Canaries. Parce que vous savez, c'est où les îles Canaries? Oui, la côte ouest de l'Afrique. Les îles Canaries, on n'entend pas souvent parler de ça. Hein? Ouais. Mais c'est des petites îles qui appartiennent à l'Espagne. Qui est dans le nord-ouest de sur la côte nord-ouest de l'Afrique. Et puis, donc, il est invité par son collègue à remplacer sa femme pour ce voyage-là qui, pour une raison de dernière minute, elle n'a pas pu se joindre au voyage. Fait que finalement, Normand accepte de joindre son ami dans le voyage, puis il s'envole vers les îles Canaries. Et puis, donc, pour une raison ou pour une autre, ils ont été assis comme séparément, puis ils ont fait des efforts pour pouvoir être assis ensemble, mais finalement, peine perdue, ça n'a pas marché. Fait que là, ils ont été assis séparément dans l'avion. Et puis, ils ont été... L'aéroport qui devait les accueillir, c'était à Gran Canaria. Je ne sais pas si vous voyez, là. Mais il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a eu une attaque terroriste à l'aéroport. Et puis, tous les avions de la région de Gran Canaria, puis même des autres, là, par peur de qu'il y ait d'autres attentats terroristes, ont été tous redirigés vers l'île de Tenerife. Fait qu'il y a un paquet d'avions qui sont redirigés vers cette île-là. Et il y a beaucoup de gros jumbo jets. Là. Comme lui, il était dans un gros jumbo jet. Puis, donc, il y a plein d'avions qui sont à Tenerife en attendant que la situation se règle à Gran Canaria. Puis là, en même temps qu'ils sont là à attendre, tous dans les avions, à Tenerife, un volcan commence. Mais tu sais, c'est pas grave. Le volcan menace pas les avions, rien. Mais ça crée un épais brouillard, un très grand brouillard. Puis après 4 heures, il y avait vraiment, il paraît qu'on mettait notre main devant nous, puis on voyait rien pratiquement. Tu sais. Puis là, avec le temps, ça s'est un peu dissipé. Puis là, ils ont eu l'autorisation de partir. Fait que là, il y a quelques avions qui ont été devant eux. Puis à un moment donné, leur avion a l'autorisation de partir. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est vraiment une grande tragédie. Je ne sais pas si... Okay. Une fois l'aéroport de Las Palmas réouverte, leur avion s'est mis en route vers le point de décollage. Et là, l'avion a l'autorisation, il se met pour décoller. Il commence à prendre beaucoup de vitesse. Puis à un moment donné, Normand, il est dans l'avion, puis... Il ressent un grand coup, comme si on était sur l'autoroute à 120, là, puis là, on tourne subitement. Puis là, tout le monde fait ça, puis soudainement, il y a une grosse explosion. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un avion venait dans le sens inverse. Et les deux avions se sont frappés l'une contre l'autre. Et lui était dans l'avion. Et évidemment, là, ça a été comme une grosse explosion. Puis là, à un moment donné, il revient à lui-même. Et là, ça l'a marqué parce qu'il a vu des choses qu'il jamais s'attendait à voir. Il a vu des gens être en train d'être brûlés, en train de qui avaient eu plein d'éclats de verre et tout. Et ce qui l'a marqué, c'est pas ça. Ce qui l'a marqué, c'est que ces gens, dans les dernières minutes de leur vie, ce qu'ils ont fait, beaucoup d'entre eux, c'est qu'ils ont blasphémé. Ils blasphémaient. La colère sortait, puis c'était comme des gros blasphèmes avec la haine, là. C'est ça qui l'a marqué. Lui, il avait toujours cru qu'une personne qui arriverait à la fin de sa vie, qui sait qu'il va mourir, là, supplierait Dieu pour de le pardonner, de sauver, de l'aider, etc. Puis ce qu'il a vu, c'est le contraire. Il a vu des personnes animées d'une haine puis qui se reflétaient face à Dieu dans des blasphèmes. Puis ça l'a vraiment troublé. Et il a fait des recherches par la suite. En fait... J'ai son témoignage ici. 583 personnes mourues au total, 61 personnes survécurent, dont Normand. Ça, c'est la plus grande tragédie de l'histoire de l'aviation. Et puis, son témoignage après ça, il est vraiment intéressant. J'ai vu des hommes et des femmes brûlés vivants qui blasphémaient intensément alors qu'ils étaient en train de mourir. Et je n'étais pas préparé pour ça. J'avais toujours cru que lorsque des hommes et des femmes étaient face à la mort, qu'ils auraient imploré automatiquement Dieu. Mais j'ai découvert que cela n'est pas vrai. Ça l'a poussé à faire des recherches, à comprendre comment ça pour... Qu'est-ce qui se passe dans l'humain pour faire ça? Puis il a découvert ceci. Dans les moments de détresse et en temps de crise, les êtres humains sont comme ils se sont programmés durant leur vie. S'ils ont blasphémé toute leur vie, ils blasphémeront aussi face à la mort. N'attendez pas d'être dans ce genre de situation pour changer car il sera trop tard. Apprenez tout de suite à l'invoquer. Et dans son témoignage, il parle de comment sa mère a eu un impact dans sa vie. Sa mère, c'était une femme de Dieu, une femme de prière, une femme qui était vraiment ancrée dans la parole de Dieu, une femme de louange, puis elle dégageait tout ça, puis toutes ces qualités-là, elle avait réussi à les communiquer à son fils. Puis c'était des qualités que lui aussi avait, c'était tout le temps quelqu'un qui priait, qui louait Dieu, c'était quelque chose qui entretenait, comme le Éphésiens 5 disait. Et puis, lui, sa réaction... Quand ça s'est produit, c'est tout de suite de se tourner vers Dieu. Boum, catastrophe. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Puis tout de suite, il était en prière. Tout de suite, ça a été sa réaction naturelle parce qu'il était habitué à ça. Il avait son âme, son esprit était rendu habitué à ça. Et puis, ça l'a vraiment troublé. Mais ça nous parle de devenir. Nous sommes, à chaque jour, on renforcit des caractéristiques de notre personnalité, de qui nous sommes. Et puis, c'est quelque chose qui se solidifie, ça devient de plus en plus qui nous sommes. Et puis, à la fin, quand que, dans le fond, Dieu vient nous prendre, c'est pas vrai que, en tout cas, c'est peut-être le cas pour certains, mais la plupart du temps, les choix qu'on a fait dans la vie nous ont formés comme personne, et puis nous sommes devenus quelqu'un, puis ça se manifeste avec le temps. Pour rentrer ça dans le thème, ok, excusez, ça c'est Épictète, ouais, ok. Une personne qui n'est pas capable, qui, avec le peu de connaissances que Dieu lui a donné, qui n'est pas capable de glorifier l'être le plus merveilleux de l'univers, d'après moi, va être pas capable non plus d'être encourageant, d'être positif à l'égard des personnes imparfaites autour de lui. Puis, éventuellement, c'est des choses qui forgent l'identité de la personne, et puis ça crée vraiment comme dans qui nous devenons, ça crée vraiment, ça nous sédimente. Puis une des personnes que j'aime beaucoup, c'est un philosophe et qui a vécu en même temps que les apôtres. Donc, il a vécu dans l'an 40 environ du premier siècle. Et puis, c'était un esclave boiteux. Boiteux, pourquoi? Parce que son maître lui avait cassé une jambe. Il était vraiment maltraité en tant qu'esclave. Et puis, c'est incroyable parce que ce gars-là ne connaît pas Jésus-Christ. Mais il connaît le Dieu de la création. Puis, pour lui, ça, c'est... Même si certaines choses vont mal dans sa vie, il loue Dieu en dépit des circonstances. Puis, c'est quelque chose qui est intéressant, qui vient illustrer un peu le passage qu'on a lu. Si nous avions du bon sens, nous ne ferions autre chose toute notre vie, en public comme en privé, que de rendre grâce à la Providence pour tous les biens que nous avons reçus et dont nous jouissons à tous les moments de notre vie. Oui, en bêchant, en labourant, en mangeant, en nous promenant, en nous levant, en nous couchant, nous nous écririons que la Providence est grande. Mais là, il parle à des personnes qui sont autour de lui et qui sont non reconnaissants envers Dieu. Mais vous êtes ingrats et aveugles, il faut donc que je le dise pour vous tous, et que vieux, boiteux, pauvre et infirme, je dis sans cesse que la Providence est grande. Puis c'est drôle parce que dans ses écrits, un peu plus loin, il dit, il y a comme un débat avec une personne, puis l'autre personne dit, mais si Dieu existe, il n'est pas bon parce que il laisse le fait que j'ai de la morve dans mon nez, ou comme du couler, tu sais, comme quand on se mouche, là, pourquoi faut se moucher, tu sais? Pourquoi Dieu, s'il est bon, pourquoi faut que je prenne le temps? Puis là, ils ont un débat philosophique sur le fait de est-ce que Dieu est bon parce que comme faut je me mouche, tu sais? Puis là, comme lui, il dit, dans le fond, Dieu t'a donné une main, puis t'as juste à te moucher, puis c'est mieux de... Je sais pas si je l'écris ici. Je vais revenir. Ah, ouais, c'est ici. Mieux vaut se moucher que d'accuser Dieu. C'est ça son point. Y a-t-il une providence, dit un épicurien? Il me coule incessamment une pituite, qui est, c'est ça là, la mort, qui me désole. Esclave que tu es, c'est sa réponse d'Épictète. Pourquoi donc as-tu des mains? N'est-ce pas pour te moucher? Puis là, l'autre répond, mais ne vaudrait-il pas mieux, répond l'épicurien, qu'il n'y eut pas de pituite au monde? Et là, encore, Épictète revient, et ne vaudrait-il pas mieux encore te moucher que d'accuser Dieu? C'est juste, c'est drôle, c'est comique, là, mais c'est le genre de choses qui... ici, il y avait une autre citation, encore des petites têtes. La divinité, on pourrait dire Dieu, demandait un témoin de sa bonté, de sa vérité, de sa justice, et tu es devenu son accusateur, en parlant de la personne qui argumentait par rapport à l'affaire de se moucher. Mais... Dieu est bon, puis ma prière, c'est que on apprenne toujours plus à le connaître, que ce soit intellectuellement, à travers la parole, ou spirituellement, à travers nos méditations, nos prières, ou expérientiellement, à travers de ce que l'on vit. Puis même quand on fait face aux épreuves, ma prière, c'est qu'on puisse se souvenir du Dieu que l'on connaît, tu sais, qui s'est révélé par l'entremise de la création puis des Écritures. Savoir que même si on voit pas tout de suite que ça concourt à notre bien, que ça va finalement concourir à ça. Et puis, de continuer à le louer malgré tout, malgré des fois les circonstances que l'on fait face, puis de garder cette attitude positive, de garder ce climat de louange, de rendre hommage à Dieu, je pense que c'est vraiment important pour notre devenir, qui on devient en tant que personne, puis ça, éventuellement, ça se manifeste à la fin. Hein. Louer Dieu, ça implique de le connaître premièrement, Le connaître suscite le désir de lui rendre gloire, de l'adorer. Et l'adoration provoque éventuellement une transformation. Mais je pense que l'étape clé, c'est celle du milieu. Connaître suscite le désir de lui rendre gloire, l'adorer, mais ça, ce n'est pas nécessairement vrai. C'est vrai dépendamment de notre cœur. Si on veut céder à cette romance-là que Dieu nous propose d'entrer avec lui, pour avoir une relation personnelle avec lui, ou on peut résister aussi parce qu'on veut garder les rênes ou parce que, pour mille et une raisons. Mais ma prière, c'est qu'on puisse cultiver cet esprit-là d'adoration, de reconnaissance, de louange, et puis qu'on laisse le Seigneur nous montrer toujours plus qui il est vraiment, puis à quel point il est grand, puis à quel point il est bon. Puis ça, en bout de ligne, ça provoque des personnes qui sont à l'image de Jésus-Christ, et ça donne quelque chose de beau en bout de ligne. Amen. Good, on va terminer en prière. Seigneur Dieu, je te remercie pour ton plan parfait, Seigneur. Merci parce que, comme Lily, cette petite fille, on peut voir juste en regardant les étoiles, la lune, Seigneur, que tu es un grand Dieu, tu es un Dieu qui est beau, qui crée des merveilles, Seigneur. Même le psaumiste David disait, « Je suis une création merveilleuse, Seigneur. » Puis ma prière, c'est qu'on puisse voir que tu es, quand même, Seigneur Dieu, tu es merveilleux, que toutes les bontés de ce monde, tous les biens de ce monde pointent vers toi ultimement, Seigneur Dieu, puis que ça puisse nous porter à te louer, t'adorer, par des cantiques, des psaumes comme on va chanter bientôt, mais aussi par notre vie entière, Seigneur, par nos choix, par notre persévérance dans tes voies, par que toutes ces choses puissent te glorifier, Seigneur. C'est ma prière. Puis je te demande de nous donner, de même dans nos circonstances moins roses, Seigneur, moins belles, qu'on puisse garder une attitude positive, garder une attitude de louange, d'adoration, et qu'ainsi, Seigneur, tu puisses faire ton travail et nous transformer de plus en plus à l'image de ton Fils. Dans le nom de Jésus. Amen.